稳定，
对，
是
不
是？
En premier échange sur ces propositions, en précisant que la forme comme ça, exposé long et discussion est toujours une forme un tout petit peu convenue, c'est pour ça qu'on va essayer de la faire bouger dans les prochaines séances, mais ça n'empêche que j'aimerais bien savoir si vous réagissez, pas seulement à mon égard, pas seulement pour vous répondre, on est là pour se parler les uns les autres. Comment vous réagissez à ce programme de travail, programme de recherche? Est-ce que vous en pensez, ce que vous en attendez, la façon dont vous pensez qu'il peut être modifié ou complété? Voilà. Ismaël,
quelque chose? Comme ça, une première.
Alors, Ismaël Jude qui fait une thèse sur Gilles Deleuze.
Je me demande si ces expériences n'avaient pas des expériences faites avec des metteurs en scène comme ça, mais pas toujours justement une fonction de formation. Et si c'était pas ouvert à l'extérieur, si ça n'avait pas, si ça laissait pas une trace chez les acteurs, qui après pouvaient travailler par ailleurs à d'autres endroits. Donc, c'est une question que je peux.
Vous en pensez?
Je me demandais si ces expériences d'acteurs avec tel ou tel metteur en scène, on ne retrouvait pas des traces chez les acteurs qui après pouvaient travailler dans d'autres choses. Je ne sais pas si les acteurs de Grotowski, par exemple, après Grotowski ou en dehors de Grotowski, n'ont pas fait d'autres expériences. Ça aura une fonction de formation, tout simplement. Ce qui fait que l'expérience n'est pas simplement une expérience de théâtre fermée sur un laboratoire, qui serait plus une formation.
Chez Grotowski, sans doute, parce que beaucoup des acteurs qui allaient produire comme télé, après repartaient dans leur pays d'origine, qui était beaucoup plus venu, et continuaient ce travail avec d'autres, donc il y avait une transmission. C'est souvent comme ça. Pas tous, parce que Thomas Richard, on parlait à l'instant, lui est un élève de Grotowski, il est resté, c'est lui qui dirige le War Center maintenant, il est resté dans ce sillon-là. Mais il y a Gilles aussi, mais la plupart repartent ailleurs, travaillent ailleurs. Donc ça a été sans doute
finalement sans faire une formation.
Enfin, peut-être formation, c'est peut-être pas le moteur d'une grande période de vie.
Je pense que peut-être qu'on touche à un des points de la discussion, ça veut dire que certes, de manuel, c'est une table de vie, puisque simplement quelqu'un qui va apprendre un métier ou des techniques de métier, d'acteur, qui va expérimenter quelque chose, faire l'expérience de quelque chose, après qu'il le déporte vers autre chose, c'est son affaire à lui et là,
ça vient être le problème avec certains Grotowskiens, c'est d'essayer de reproduire une expérience qui n'avait de sens qu'à un endroit donné avec la contexte donné, un moment qui transportait un peu ailleurs sans savoir suffisamment travailler, quand bien même travailler, a donné quelque chose.
C'est ce drôle, c'est ce qu'a dit comprendre très vite Thomas Richard. Ça n'a de sens que s'il restait là. Je pense que pour y parler de Grotowski, c'est la seule personne qui aurait pu être invitée ici. Hein. Pas du tout lors de la nuit, mais assurément Thomas Richard. Enfin, c'est le seul à Marie de Gis et mon Mario de Gis. C'est les seuls qui se témoignaient de cette expérience réelle. Banu, c'est rien.
Parce que formation, ça va vite d'heure. Mais quand même, les acteurs qui sortent de telle expérience, si c'est ferme au public, il y a quand même un moment où, jouant dans d'autres choses, ils sont forts de cette expérience. Alors, même si formation, c'est réducteur.
Formation n'est pas ce que je veux dire. Justement, Denis se posait la question de actuant qui est un terme Grotowski a vraiment traduit par Grotowski, terme que le mieux importe en anglais, doer, ça vient, et c'est lui qui a voulu que ce soit tuant, traduit de doer en anglais. Il avait beaucoup d'attention aux traductions en français de ses textes, et, parce que Arthur est assez curieux en français pour moi, il y tenait beaucoup. Donc, je pense que la formation n'est pas du tout un terme exact. En ce qui concerne le Global Center, ça n'est pas du tout un centre de formation. Mais une expérimentation, c'est un centre de vie, mais un centre de vie, c'est un peu médical, mais c'est plus juste, à mon avis. Ça fait un peu médical. C'est un peu la clinique d'intérieur.
Je suis assez d'accord quand vous dites que l'expérience va jouer ailleurs. Et tout le problème est justement, dès le départ, que l'expérience grotowskienne, c'est Grotowski qui le dit, le théâtre, peut-être que l'on soit, est le dernier lieu au monde, le seul lieu au monde où on ne peut ne pas jouer.
Où l'on ne joue pas, on ne joue pas, on ne joue pas, on ne joue pas, on ne dit pas peu.
Donc, le fait qu'on dit que l'expérience se transporte ailleurs pour jouer ailleurs, il y a tout de suite une incompatibilité.
Je ne crois jamais le mot jeu, je
n'en avais pas.
On posait la question de jouer, jeu et tout à l'heure, dans tout le monde.
Je trouve une précision aussi par rapport à ce que disait Denis. Le fait que Banu et Téléphine aient assisté à une des séances du World Center, ce n'est pas du tout chose exceptionnelle. Ils ont toujours, tout au long du World Center, et toujours maintenant, un peu différemment, évidemment, de l'autre côté, il y a toujours des gens qui venaient comme spectateurs témoins, ce que le terme est un consacré, assister à des séances de travail. En général, c'était souvent des troupes qui étaient invitées à travailler au Work Center pendant un moment, parallèlement, parce qu'il y a de ça, parallèlement au travail du Work Center, ils travaillaient tous sur leurs propres travaux, et des moments, ils se montraient l'un l'autre leur travail. En fait. Le Work Center, Grotowski et les acteurs allaient voir le travail d'une troupe de X, et inversement, ça passait en fait. Et ça se faisait très très régulièrement. Toujours exceptionnel. Oui, il y avait quelques invités, alors peut-être comme Bayou était invité, il y avait quelques des gens qui avaient des liens forts avec le World Center qui était invité. Maintenant, dans le World Center de Thomas Sosa, c'est un peu différent. Ils ont ouvert beaucoup plus le World Center pour des raisons aussi financières.
Ça ne se fait pas dans l'absence totale de spectateurs.
Je crois que ce que dit Grotowski pour moi est très important. Puisqu'il est là, il y a un spectateur, c'est le spectateur témoin. Il y en a un, 10%, c'est pareil. C'est lui le premier. C'est lui qui faut le théâtre. C'est son regard. Enfin, moi, je crois ça. Pour moi, il n'y a pas de théâtre. Je ne suis pas là dans ce que nous faisons ensemble. Si je sors, il n'y a plus de théâtre, plus ça meurt. Car les acteurs ne peuvent pas travailler sans que je les regarde. C'est un peu impossible. Donc il y a toujours spectateur. Puisque moi je ne participe pas du tout au travail d'acteur, comme Grotowski ne se lève jamais. Je suis toujours à regarder ce qu'ils font et jamais avec eux.
Mais est-ce que la question, c'est pas le public ?
Comment ?
Est-ce que la question n'est pas le public ? C'est un théâtre sans public, ça ne veut pas dire sans spectateur.
Non, c'est pas un théâtre sans public, c'est un théâtre avec un public particulier, en fait, qui est différemment choisi, formé peut-être, justement, préparé différemment. Il y a un public, là. Pas au sens où on entend dans le théâtre public, par exemple, il y a un public. Dans ce qu'on fait, il y a du public. Il y a un public très particulier.
Je ne demande pas par rapport à ce que tu fais.
C'est Grotowski aussi, je pense. Il y a un public, c'est-à-dire que les gens qui venaient assister aux séances et qui ont un public.
Mais il me semble avoir lu des textes de Grotowski où il blâme l'usage même du mot public.
Ah, le mot, oui.
Et où il dit, ça, il exclut qu'il y ait un public. Et c'est pas un hasard d'exclure ce mot. Je pense que pour moi, c'est ça l'enjeu de Grotowski.
Il dit toujours spectateur témoin.
Oui, mais je pensais pas. On a toujours dit adapter Aristote, d'une certaine manière, qu'un public de la tragédie. Bon, pas simplement un spectateur, mais un espace public, la tragédie ouvre une publicité, un espace public, etc. Et je crois que c'est le geste absolument radical, je ne suis pas du tout un connaisseur de Grotowski, hein, mais un tout petit peu, je crois que le geste absolument radical de Grotowski, c'est de dire c'est fini, on sort de la question de publicité. Et ça, c'est quand même une sacrée question. Le fait que tout à coup on dise qu'il n'y a pas d'un côté la scène, d'autre côté le public, c'est pas du tout la même chose que le fait qu'il y ait un spectateur ou pas, c'est une toute autre question. C'est une toute autre question. Parce que c'est un partage des tâches par rapport à ce que Rancière, dont je partage d'ailleurs pas les idées en règle générale, appelle le partage du sensible, c'est une nouvelle organisation du partage du sensible qui est en jeu. Et par exemple, et moi je pense aussi à Bakhtin dans toutes ces questions, il y a toutes ces questions-là de aussi l'agence. Qu'est-ce que la question bakhtinienne du dialogisme, du carnaval, etc. C'est que c'est, l'événement, il n'y a pas un public qui serait coupé de bon, je dis des choses qui sont des clichés et qui sont trop simples pour être intéressantes et honnêtes, mais je pense quand même que. Mais peut-être que je me trompe, hein, que la question, là, c'est pas simplement ce qu'il y a, c'est bien le public. Et d'ailleurs, je précise que si on a lancé ce séminaire, c'est parce que nous avons affaire ici, nous, Michel Barre et Vincent Puig et moi, à des publics. Et que nous, ce séminaire a lieu dans le cadre d'un programme qui s'appelle l'adresse au public. Et donc la question de l'adresse nous importe, et la question de savoir ce que c'est que le public, en tant que le public, la salle ça n'existe pas. Qu'aujourd'hui, en tout cas, ça devient non pas le public, mais la jauge, c'est-à-dire le résultat financier, est-ce qu'on a rempli la salle, l'audience,
le fauteuil. Qu'est-ce que le public?
Alors,
c'est une immense question, bien entendu. Si j'ai invité Denis à faire ce séminaire, c'est parce que je crois qu'il est un des rares à poser cette question.
Alors, si je peux dire, il me semble que dans la. Là, il y a deux questions distinctes. Méthodologiquement, pour la précision du travail à venir, enfin pour la discussion, non, pour la vision du travail à venir, on a intérêt à garder la distinction. La première question, qui n'est pas dépendante du fait qu'il y ait des spectateurs ou pas, et le fait que lorsqu'on imagine une représentation théâtrale, même dans le modèle le plus classique, c'est-à-dire dans ce que j'ai essayé de proposer tout à l'heure, le modèle moderne, la question de savoir qu'est-ce qui se passe du côté de ce qui a lieu chez celui qui joue pendant qu'il joue. Et en particulier, la question de savoir si on peut dire ou pas que celui-là est le lieu, le théâtre, comme on dit, d'un jugement de goût ou pas, et s'il n'y a pas de jugement de goût, s'il le fait ou pas. Alors ça, c'est pas lié au fait qu'il y ait ou pas de spectateur, hein. Le fait qu'il y ait ou pas le spectateur, c'est en fait une espèce de méthode que proposer ici pour réfléchir. Tant qu'à réfléchir sur ce qui se passe chez l'acteur, procédons de la façon suivante, essayons de regarder les expériences où la question du spectateur a été comme amenuisée, presque réduite à rien. Supposée réduite à rien ou presque réduite à rien. Mais, j'ai dit in fine, que ce presque réduit à rien ne me paraissait pas devoir être considéré comme une annulation, une question qui se pose. Hein. Bon, alors, ce qu'il ne faut pas ici, pas dans notre discussion, mais en général, c'est que nous nous laissions à nouveau vampiriser par la question du ou des spectateurs, puisque c'est la question qui, en tout cas dans la tradition critique, vampirise la totalité de la réflexion sur le théâtre. Puisque la caractéristique de l'époque critique moderne, c'est qu'on ne parle du théâtre, en tout cas dans l'espace théorique, dans l'espace de la réflexion théorique, que rapporté à une fonction supposée, qui est la fonction de l'annulation du spectateur. C'est la question du jugement. Ce que, et c'est lorsqu'on parle du théâtre, des acteurs, par exemple, on en parle comme produisant des opérations, mais des opérations qui sont évaluées par rapport à ce que c'est censé faire quant à ceux qui les regardent. C'est donc la première chose. L'annulation des spectateurs, même si j'ai fini par ça, l'annulation possible ou impossible de la position du spectateur, hein, le fait qu'il y a un résidu, toujours un reste. De spectatorat, comme diraient les autres quand ils parlent de. Voilà. C'est une procédure. Notre objet sera de nous demander qu'est-ce qui a lieu Et en particulier, quel type de synthèse, quel type de montage, pour prendre le terme de Grotowski, a lieu dans, avec celui qui, ou qui, ceux qui. La deuxième chose que je voudrais dire, le deuxième élément que je rapporte, c'est que, en ce qui concerne la question du public, ou d'un spectateur singulier, du spectateur, il va de soi, hein, ça, évidemment, Bernard le sait très bien, c'est monsieur. Je pense en grande partie pour ça qu'on en est là, et puis on en a parlé, on en a discuté ailleurs, publiquement. La foi est en effet, bien sûr, que à supposer même qu'il y ait une réduction, sinon une ablation, un amenuisement, une mise à l'écart de la fonction du mot même, comme tu le dis, de public, ce qui part avec le mot public, c'est le mot peuple, dont le mot public n'est qu'une variante, et ce qui part avec le mot peuple, c'est le même de la communauté spectatrice. Alors ça, c'est une question qu'il va falloir qu'on discute beaucoup le moment venu avec Emmanuel, dont on a discuté avec Jarreau, qui est le très célèbre inquipite de l'espace vide, dont on pourrait discuter sur l'héritage protestant, etc. C'est qu'est-ce qui se passe du côté de la salle de public ou pas. C'est-à-dire public au sens espace public, le politique, la constitution du commun, la vie commune, etc. Mais bon, ceci, ce sont des questions sur lesquelles beaucoup de gens travaillent. Là où, personnellement, je crois qu'il est intéressant et utile de s'arrêter un instant, c'est que la transformation des spectateurs, de la collectivité des spectateurs, de la collectivité publique et politique des spectateurs, soit dans le modèle grec, soit dans le modèle, disons, la pré-Renaissance, la transformation de ça en quelque chose qui est une entité objective, collective, qui s'appelle le spectateur, qui est une production historique déterminée, et qui est un collectif, mais un collectif condensé. Un collectif condensé dans la figure de l'individualité subjective, l'individualité du goûteur. Et au fond, bon, moi j'ai beaucoup parlé de ça, par exemple, sur le fait que, par exemple, dans les théâtres, habituelle, la position du spectateur, c'est la position du metteur en scène, et que la position du metteur en scène, c'est supposé être la position du public dans une certaine fonction. La preuve, c'est quand le public arrive, le metteur en scène est délogé de sa fonction, hein, ce qui est, comme je l'ai rappelé, une détresse, même si on peut à avoir vécu, puisqu'à partir du moment où il y a le spectacle commence, le spectateur, le metteur en scène, ne sait littéralement plus où se mettre, hein, dans la forme traditionnelle, il y a cette espèce de petite table avec une petite lampe, un ou deux assistants à côté, et une petite nuée de gens qui s'agitent et qui apportent et qui retirent, okay, bon, voilà, et avec un petit truc dans l'ombre, mais pas tout à fait parce qu'il faut la lampe, etc. Et ça arrive jusqu'à, dans le tissu très traditionnel, à l'ancienne ou à la moderne, ça arrive jusqu'au dernier moment, et puis au moment où le public arrive, le metteur en scène est littéralement expulsé de ce lieu, et nous sommes quelques-uns à l'avoir vécu physiquement, quand on a accepté de se compromettre à ce genre de dispositif, c'est une détresse, parce qu'on ne sait plus où être, Alors on peut se mettre comme un spectateur, un spectateur, ce n'est pas le spectateur, on peut se mettre dans la régie, on peut se mettre dans la coulisse, on peut se mettre là-bas, bon. Et c'est une position où on n'existe plus. Pourquoi ? Parce qu'au fond, la position du spectateur supposé au milieu de l'espace public, c'est une condensation. Le metteur en scène qui regarde la répétition, c'est la condensation, la délégation condensée de ce qui est supposé être l'auditoire à venir. Hein. Alors cette opération de transformation de la collectivité du public en le spectateur, cette opération est une opération extrêmement précise historiquement. Elle est appareillée, comme on dirait ici, et à juste titre, elle est appareillée architecturalement, elle est appareillée techniquement, elle est appareillée scénographiquement, elle est appareillée intellectuellement. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de constructions et de mises en place d'appareils qui construisent ce représentant délégué tenant lieu du public. D'une part, elle est appareillée, elle est datée, elle est peut-être provisoire, elle est caduque, comme toutes les choses dans ce monde, et elle est menacée à certains moments donnés, à certains égards, mais elle a une histoire. C'est par un effet strictement idéologique que nous disons, et les autres, le spectateur. Parce que ça, Aristote n'a jamais pensé à dire le spectateur, ça n'existait pas. Le mot n'existe pas dans Aristote, bien sûr, ce singulier-là déterminé, ça n'existe pas. Et ça commence à apparaître progressivement et tardivement à partir du XVIIe siècle en France. C'est une construction historique, le spectateur. Et ça va de pair avec la construction de l'époque moderne, qui est l'époque de l'esthétique au sens sociopolitique qui est le nôtre. Alors, je crois qu'Alain veut dire quelque chose, vous en prie. Donc, Alain Didier,
par rapport à ça, je crois que ça vaut la peine de mettre dans la recherche que vous lancez. Déjà, ce paradoxe est au cœur de la découverte de la psychanalyse. En somme, la psychanalyse, on peut dire qu'elle naît parce qu'un jour, un être vient à la parole à travers un acte de création de jeu, et que le fond de cet acte de jeu par lequel un tout petit est saisi par la parole, c'est véritablement un acte où un joueur ou un goûteur vient sur un jour où un goûteur vient sur scène sans qu'il y ait de... C'est ça l'étonnement radical de Freud quand il découvre qu'un petit parlant prend la parole dans un rapport d'interlocuteur avec un autre qui n'a pas besoin d'être incarné physiquement avec un autre. Lacan avec cet autre grand A, avec un grand A. Et c'est dans l'interlocution avec cet autre qu'apparaît le mystère, l'énigme totale du parlant. Cet autre, parlait de l'espace tiers, Freud l'a nommé comme tel. Il a parlé de la dritte personne. Surgissement d'une troisième personne chez un être qui avait la chance de ne pas être psychotique d'autiste. Quand ce lieu tiers d'interlocution n'apparaît pas, c'est l'autisme, par exemple. Ce qui est passionnant, je trouve, dans toutes ces histoires de groupe que vous réalisez, c'est vraiment passionnant, c'est que, au sein de la psychanalyse, le débat, le conflit fondamental qui a lieu en particulier autour de Jacques Lacan, qui vit un peu la communauté analytique, est autour de cette question. Parce que la question, c'est en somme introduit par Freud quand il amène l'idée, tardivement, quand il amène l'idée que dans le monde avec lequel nous sommes en rapport, il y aurait une part du monde au-delà du principe de plaisir, c'est-à-dire une part du monde désexualisé, avec lequel Hitler aurait donc un rapport qui pose un désir énigmatique, Lacan l'appelle désir fixe. Pour dire que ce n'est pas un désir sexuel. Le conflit Lacan et la communauté analytique, c'est là. C'est parce que Lacan extrait l'idée d'un réel désexualisé. Il a mis 20 ans à théoriser cette histoire d'un trou, 20 ans à élaborer un type de rapport à ce réel désexualisé qui oriente un certain type de désir qui est basé sur l'énigme entre les tiers et de l'interlocution. Ce que je trouve passionnant, c'est la façon dont Kant, par le vivant de goût, arrive à nous proposer l'existence d'un goût pour quelque chose qui serait pas guidé par le sexuel. Je me demande, sincèrement, j'ai des recherches à faire, est-ce que d'abord le post-montilianisme, est-ce que d'une part, ça serait pas, n'aurait pas été à situer, comment à lui simple la question du goût, d'une part, dans le mouvement lumière, c'est-à-dire dans un moment de l'histoire où, du fait du développement de la science et de l'économie, le monde perd son goût. Il n'y a plus de goût. Le monde, j'en vois beaucoup à écouter le bien des réfugiés, de la profession que j'ai entendue à Paris de Bernard. Quand le monde perd son goût, il est possible que l'entreprise de Kant soit de penser comment redonner du goût au monde. Un goût qui a. Bon, ça n'a rien pas. Et je crois, je pense, penser la façon dont il arrive au goût, je pense que c'est important de resituer sa méditation sur la religion française. Il est désespéré par l'échec de la révolution, et en même temps, il ne doit pas perdre espoir. Et là, je crois que c'est là, pour moi, que c'est comme ça qu'il comprit qu'il introduit le goût, c'est qu'il dit en somme, il confie à l'artiste, non pas une fonction d'artiste, il le nomme l'artiste. Il dit l'artiste, c'est celui dans un citoyen, citoyen, qui pourra avoir une vertu citoyenne qui, en transmettant le goût dans ce qu'il a d'universel, à ce niveau-là, plutôt qu'il lance l'extraordinaire, qui vous habite toujours un peu, bien que en méchant, mais il lance l'idée qu'au niveau du goût, entre les nantis, les privilégiés et le peuple, il ne croit pas que d'un point de vue économique, il y aura une égalité, mais il dit, on peut supposer qu'il y aura une égalité, une fraternité au niveau du goût, où les puissants et les pauvres pourraient avoir une rencontre. Donc il y a aussi dans le goût une sorte de deuil, je crois, de camp par rapport à l'idée de l'échec de la révolution française.
Pas répondre, moi je ne veux pas répondre à ce qu'il dit, j'écoute. Écoutez, au sens de répondre.
Et bon, dernier point, je vais vous faire remarquer, c'est que moi je suis à 68 ans, j'étais dans cette génération. Et dans la génération de 68, on était Marcuse, Reich, c'était omniprésent. Je ne vais pas développer, mais je vais quand même lancer, on dirait que le point c'est complexe, je crois, du goût, c'est que pour Marcuse, pour Reich, tout ce qui vient du jugement du goût, et on s'y connaît au-delà des parties de notre livre, c'était fondamentalement pour eux ce qui était anti-révolution. Que toute l'œuvre de Reich, Marcuse, se base sur. Freud, on l'arrête au moment où Freud introduit l'hypothèse d'un autre âme ou d'une âme. Comme ça, le goût, de deux façons différentes, ça peut être subversif. Et d'un autre côté, une autre façon de prendre les choses, ça peut être considéré comme anti-subversif, selon la façon dont on prend.
Oui, c'est une question. Très bien, c'est très bien.
Florent. Tout à l'heure, vous disiez que chez Aristote, il n'y a pas cette idée du spectateur, le spectateur. Et je me demande justement si, du coup, il n'y a pas dans votre façon de problématiser un télescopage assez intriguant, au fond, entre la problématique ancienne du jugement de goût et la problématique aristotélicienne de la mimesis, dans la mesure où. La mimesis, c'est précisément la question de qu'est-ce qui se passe du point de vue de celui qui fait l'œuvre. Quoi. Et donc je me demande si curieusement on ne retrouve pas Aristote dans votre question.
Pourquoi vous dites que la problématique de la mimesis, c'est ça?
Parce que dans la poétique, la question est le. Bon, il y a la catharsis, tout ce qui peut se passer au niveau des décharges pulsionnelles, mais il y a par ailleurs le faire la mimesis, qui est la question de l'artiste, en fait, ce qu'il fait. Et c'est décrit comme un véritable processus d'action-réaction, quoi. C'est-à-dire qu'il faut. C'est un protocole quasiment un ethos, quoi, chez.
C'est une voie de plaisir, vous ne pouvez même pas du parler de la classe.
D'accord,
rien. Aristote, il parle vraiment de l'écriture en tant que poète, c'est ça qui l'intéresse, l'acteur. En fait, il ne le traite pas directement. Enfin, il en parle, mais de manière incidente, et il ramène tout à vraiment l'écriture. Donc c'est ça, c'est un point aveugle de la poésie qui justement, on parle de l'organisation, ouais. ça vient dans un second temps et c'est inférieur. C'est une sorte de. Voilà.
D'accord, oui.
Mais c'est une question à faire. Non, mais c'est vrai, parce que justement, enfin, il en parle, mais de manière incitante.
Dans la mesure où c'est une question, puisque c'est une question, je voulais seulement vous dire, c'est que, sauf erreur de ma part, l'introduction de la question de la mimesis dans la poétique, je ne vois pas exactement comment on pourrait dire qu'elle se limite ou qu'elle s'oriente même de façon principale par rapport à celui qui pratique la mimesis. Je crois que lorsque Aristote, dès le début de la poétique, dit pourquoi est-ce qu'il y a deux limitations? Si on accepte de traduire mimesis par imitation, comme vous savez, c'est une question compliquée. Mais pourquoi est-ce qu'il y a imitation? Il y a de l'imitation, dit-il, parce que l'homme, parmi les animaux, est celui qui prend le plus. Pourquoi l'homme prend-il le plus de plaisir à l'imitation? Parce que l'homme prend plaisir à l'apprentissage. À ma connaissance, la valeur d'apprentissage de l'imitation, de la mimesis, à ma connaissance, tant que je le sache, mais est absolument indéterminée. Candace, ce qui est l'apprentissage de celui qui regarde la chose en tête, certaines formulations d'Aristote semblent appliquées. Par exemple, quand il dit pourquoi prenons-nous plaisir à la représentation de, d'objets qui sont dégoûtants dans, quand on les voit réellement. Hein, il parle des cadavres, etc. Et il dit si on voit un cadavre réellement, c'est dégoûtant, ou un objet en train de cuire, c'est dégoûtant, et si on le voit représenté, on peut y prendre plaisir. Donc là, c'est vraiment la position de celui qui regarde. Hein. Et d'autre part, en même temps, sur ce point, vous avez raison, il y a des stratégies d'apprentissage par la mimesis. On a bien l'impression que le plaisir, par exemple, le plaisir humain de la mimesis, non pas que les animaux l'ignorent, mais Aristote dit que l'homme prend plus de plaisir, et l'espace animal qui prend le plus de plaisir à l'imitation, eh bien, ça semble être un plaisir à la fois d'imiter et de regarder les imitations. Et d'ailleurs, c'est, à mon avis, une question qui est absolument le cœur, enfin, à mes yeux, en tout cas, c'est ce que j'ai, si ou là, essayé d'argumenter, enfin, aujourd'hui, bien sûr, le cœur du dispositif aristotélicien, c'est cette indistinction entre celui qui imite et celui qui regarde ce qu'il dit. C'est ça exactement le cœur. Il n'y a pas encore, chez Aristote, si vous voulez, la distinction qui est opérée entre le fait de regarder et le fait de produire.
Moi c'est ça que j'avais en tête.
Oui. Voilà. Alors, ce qui est convenu pour nos séances, en principe, c'est en ce qui concerne le déroulement, l'horaire de nos séances, je vous le dis, parce que j'aime bien le tenir en général. Nous avons indiqué un horaire de 2 heures, ça paraît raisonnable, avec la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de durer au-delà. Hein. Moi, je suis disponible, mais je ne veux pas retenir ceux d'entre vous qui ont prévu sur leurs emplois du temps chargés une séquence de 2 heures, je ne veux pas les revenir indûment. Donc voilà, donc c'est à votre guise et à votre convenance. Oui,
si je peux, je t'en prie, en profiter pour vous signaler un peu dans cette thématique du jugement, nous aurons la semaine prochaine une séance un peu exceptionnelle dans le cadre d'un séminaire qu'on appelle Images et Visages, organisé par Pascal Combert. Qui va nous proposer en fait la projection d'images, images télévisuelles, images de l'art, devant lesquelles des personnalités dont Bernard Stiegler, Georges Didier Berman, Christian Cojol vont devoir réagir à la projection de ces images. Donc on aura à la fois la vision nous-mêmes de ces images en tant que spectateurs et aussi la vision des réactions de ces grands regardants. Donc ce sera bien sûr filmé, enregistré, et on reviendra sur cette confrontation image et regard. Donc ce sera mardi prochain, 18h, à 18h.
Alors, petite chose technique.
Excusez-moi, j'en profite pour dire que Vincent est le responsable de l'IRI, qui accueille aux côtés de Bernard Stiegler, le responsable de l'Institut de Recherche et d'Innovation qui organise et qui accueille cet ensemble d'activités. Puisque comme on ne se connaît pas tous, je vois des gens d'horizons très divers, donc ça permet de faire un peu d'attention. Odile, je vous en prie.
Moi, je suis la petite organisatrice, mais quand même, ça vous facilitera la tâche. Si vous vous inscriviez pour avoir une invitation sur l'ordinateur, parce que c'est un mardi 24 et à 18h, c'est fermé, il faut passer par au-dessus, par l'entrée du personnel rue Saint-Merry, avec votre invitation pour qu'il vous laisse passer et vous descendez au cinéma 2 à ce moment-là. Voilà, c'est des petites choses.
Chirine, le Roussien.
Savoir, est-ce qu'il y a un site
pour
voir le programme?
Oui, tout à fait. Alors, Denis m'a tendu la perche. Merci, Denis. Donc, toutes les activités de l'Institut, et en fait, ici aujourd'hui, on attaque un peu la question de la collégialité, du débat, de l'échange, en cadre de séminaires. Pour nous, on recouvre sous l'appellation du collège. Mais il y a d'autres activités de l'Institut qui sont des activités de développement informatique, qui sont du prototypage et des maquettes d'outils et d'appareils critiques, hein, notamment sur le cinéma actuellement, et l'outil d'annotation de films. Donc ces activités qu'on appelle plutôt dans le cadre, on situe plutôt dans le cadre d'un atelier qui se trouve juste en face du centre. Et enfin une activité que Bernard appelle d'espace critique qui prendra la forme d'une revue qui paraîtra l'année prochaine, qui s'appellera L'Amateur. Une des questions qu'on abordera, je pense, avec des. Donc c'est les 3 activités de l'Institut en très rapide, et vous retrouvez le détail de toutes ces activités sur le site web, donc je vous donne l'adresse, IRI-web, petit tiré, enfin tiré normal, tiré web, point centre Pompidou, point fr. Tout attaché. Et donc vous attaquez directement cette adresse. Vous ne mettez pas www avant. C'est une adresse directe. C'est un serveur donc, spécifique pour les activités de l'institut. Et là vous aurez tous les horaires, les salles, pas seulement le séminaire que je viens de vous proposer la semaine prochaine, mais tous les séminaires qui sont maintenant programmés. Il y en a presque une dizaine jusqu'à la fin de l'année prochaine.
Il y a une adresse par séminaire, ce qui fait que vous pouvez envoyer n'importe quoi, une demande, n'importe, et il vous sera répondu, c'est Florent qui se chargera de ça.
C'est ça. Et vous pouvez me joindre à contact@iri. C'est contact@iri.centrepompidou.fr.
Autre chose.
Et alors, oui. Si nous arrivons à récupérer un enregistrement correct, on va voir ce que ça donne, parce qu'on a quelques problèmes techniques, vous pourrez, et c'est aussi un des objectifs de ces séminaires, revenir sur cette discussion dans le cadre justement d'un appareil critique qu'on est en train de construire sur les séminaires, à travers un outil de navigation, de segmentation et d'annotation de la, ce qu'on appelle la ligne de temps que nous venons de vivre en fond. Nous venons de vivre une ligne de temps de 2 heures. Très riche, avec déjà une forme assez riche d'indexation et de sémantique qui est en train de se forger au cours du séminaire. On va essayer de la mettre en forme avec Julien pour que vous puissiez aussi finalement revenir sur ce qui a été dit dans ces séminaires sous une autre forme, sous la forme du site web et de l'accès aux enregistrements. Enregistrements, textes et documents annexes que nous n'avons pas forcément le temps d'aborder dans le cadre des séminaires. Mais ça permettra de travailler en amont pour les prochaines séances.
Voilà, mais merci beaucoup. Merci de votre présence.